Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission des causeries de l'économie avec Philippe Narasiguin que nous retrouvons aujourd'hui pour cette septième causerie. Bonjour Philippe Narasiguin.
Bonjour Christophe Porlier.
Alors, après les dettes économiques et non économiques, nous abordons aujourd'hui un sujet ô combien important et très polémique dans certains cas, la mondialisation et le corollaire, la démondialisation. Alors, Philippe Narasiguin, cette question de la mondialisation, eh bien, quelquefois, elle est assez mal perçue en France. Pour quelle raison?
Alors, effectivement, en France, la problématique de la mondialisation est mal perçue parce qu'on associe à la mondialisation plusieurs aspects négatifs. Délocalisation d'entreprises, désindustrialisation, concurrence déloyale des pays à bas salaire, perte d'emploi, chômage de masse, déclassement du pays, effondrement du niveau de vie, et notamment des classes moyennes, par exemple. Changeons de perspective. Regardons ce qui se passe dans la plupart des pays d'Europe. Cette question est appréhendée par les gouvernements, par les dirigeants et par les entrepreneurs de façon très positive. L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, les pays d'Europe du Nord, Norvège, Suède, Danemark, etc. Enfin, tous les pays encore plus au nord de l'Europe. Parce que pour eux, l'émergence de nouveaux pays, qu'on appelle d'ailleurs les pays émergents, a créé des besoins considérables. Besoin des nouvelles classes moyennes, mais besoin des entreprises de ces pays en termes d'équipement, de biens de consommation, de biens de transport et d'infrastructures, par exemple. Et donc, on voit très bien qu'il y a une coupure, si je puis dire, entre d'un côté les pays d'Europe du Sud, encore que je ne classe pas l'Italie comme étant anti-mondialisation, parce que l'Italie du Nord est quasiment aussi développée que l'Allemagne. Il ne faut pas oublier que l'Italie a une balance commerciale, donc industrielle, de marchandises, de biens positives, de 40-50 milliards d'euros selon les années. Et pour eux, ce sont de nouveaux marchés. Et ils sont rentrés de plein pied dans la colonisation, si je puis dire, dans la conquête des parts de marché dans ces pays, concernant les équipements, les infrastructures, le matériel de transport, tout ce dont ces pays ont besoin pour produire eux aussi des biens et des services.
Alors, Philippe Narasiguin, lorsqu'on parle de mondialisation, on parle de libre-échange. Alors, libre, est-ce qu'il est aussi libre que ça? Ça, c'est une autre question. En tous les cas, ce sont des théories qui ont été abordées par le passé par des grands théoriciens de l'économie, Adam Smith, Ricardo, on en a discuté lorsque nous préparions cette émission. La question aujourd'hui, c'est pour les personnes qui nous regardent, je pense qu'il est important, c'est de définir ce qu'est la mondialisation, précisément comme c'est le cas dans toute émission, au prisme de la science économique. Pour recaler les choses et ensuite développer effectivement
Alors,
cette émission rigoureusement.
si on prend la définition générale de la mondialisation, c'est l'ouverture des marchés de biens, de services, mais aussi l'ouverture des marchés de capitaux et la libre circulation des personnes. C'est ce qu'on voit dans quasiment. Vous tapez sur Google et puis vous regardez, mondialisation, c'est ces points qui sont abordés. Et la démondialisation, c'est effectivement le fait que les économies, que beaucoup d'économies en l'occurrence, ne sont pas insérées à l'économie mondiale. En réalité, la plupart des économies ne le sont pas. Ce sont des pays extrêmement pauvres. Sur 7 milliards 600 millions d'habitants, les gens seraient surpris de voir qu'il y a quasiment 4 milliards, peut-être plus, qui ne sont pas vraiment dans la mondialisation. Et plus un pays est pauvre, plus il est en dehors de l'économie mondiale. Et ça, personne ne le dit vraiment. Parce que c'est pas parce que vous dites pendant 40 ans la même chose, que on répète pendant 40 ans le thème de mondialisation, que tous les pays sont entre guillemets mondialisés, c'est-à-dire appartiennent à l'économie mondiale, au courant d'échanges de biens, de services, de capitaux, et bien sûr, échanges de personnes à travers notamment le tourisme.
Voilà, donc c'est évidemment, il faut derrière ça une industrie, il faut avoir une offre
Tout
de
à fait.
services construite de haut niveau à haute valeur ajoutée. Et bien évidemment, ben, il semblerait que ces pays aient du mal à se positionner, à s'insérer, comme vous l'avez dit, sur un marché avec, et puis de conquérir des parts de marché avec les règles du jeu qui sont celles de la concurrence.
Il faut des entreprises et des entrepreneurs aussi.
Alors, Philippe Narasguin, bon, quels sont les critères de la mondialisation? Comment est-ce qu'on peut effectivement mesurer cette question de mondialisation?
Avant de répondre à la question, je dirais une chose, c'est que cette crise sanitaire est importante parce que finalement, elle peut générer des pertes de parts de marché considérables en un temps très court. Ça veut dire que sur certains secteurs où les pays étaient bien positionnés, ces pays peuvent se démondialiser. Ces secteurs peuvent se démondialiser, c'est-à-dire sortir de l'économie mondiale au profit d'autres pays. Donc la crise sanitaire est un facteur d'accélération de la mondialisation pour certains pays, en tout cas des secteurs, et de la démondialisation pour d'autres pays en un temps record. C'est pour ça que cette émission, c'est toujours la même problématique, la géopolitique du vaccin. La crise sanitaire, j'en avais discuté avec vous, et vous me disiez, c'est comme une bombe, quand nous faisions au fil des webinaires, vous me disiez, c'est comme une bombe à fragmentation. Et c'est vrai. Et nous allons le voir pourquoi au fur et à mesure. Alors, vous me posiez la question des critères de la mondialisation. Quand on commençait nos spécialités en économie à partir de la cinquième année, nos professeurs d'économie ne nous parlaient pas de mondialisation. Parce que ce thème de mondialisation, d'après ce que disait un économiste, c'est un journaliste en réalité qui l'a prononcé. Et c'est un terme vague. Nous parlions d'internationalisation des économies. Est-ce qu'une économie est plus ou moins bien insérée à l'économie mondiale? Et donc, il nous fallait définir des critères objectifs, mesurables, d'insertion à l'économie mondiale. Quels sont ces critères? On va voir quelques critères simplement. Par exemple, vous avez le taux d'ouverture des économies, c'est-à-dire la part des exportations dans le produit intérieur brut, la part des importations dans le produit intérieur brut. Et puis, bien sûr, l'intensité des échanges. Est-ce qu'on exporte beaucoup? Est-ce qu'on importe beaucoup? Donc, c'est ce qu'on appelle l'intensité des échanges. Deuxième critère, les soldes de la balance commerciale, c'est-à-dire tout ce qui est marchandises agricoles, agro-industrielles, industrielles. D'accord. Si cette balance commerciale est excédentaire, structurellement excédentaire, ça veut dire que le pays est très compétitif, ça veut dire que le pays exporte beaucoup plus qu'il n'importe. Vous avez ensuite le montant des investissements directs étrangers. Vous avez des pays qui ne reçoivent absolument pas d'investissements directs étrangers. 80% ou 90% des investissements directs étrangers se font dans les pays, entre pays à haut revenu et puis les pays émergents, par exemple.
Philippe Narasguin, par exemple, sur la question des investissements directs étrangers, il faut quand même que le pays soit attrayant pour avoir des...
En plus, il faut que le pays soit attrayant, il faut que le pays ait des entreprises qui peuvent, ou des entrepreneurs qui peuvent accueillir aussi ces investisseurs directs étrangers, parce que souvent, ce sont des partenariats en plus, d'accord ? Il faut l'existence de capacités industrielles. Il faut l'existence d'un droit des affaires. Il faut l'existence d'une classe d'ingénieurs. Il faut l'existence d'une population formée. Donc vous savez qu'il y a énormément de critères qui fait que celui qui reçoit l'investissement direct étranger, ce n'est pas n'importe quel pays qui le reçoit en réalité.
Il y a un certain nombre de critères. Il y a toute une liste, je crois, d'ailleurs, de critères.
400 critères.
400 critères.
400 critères pour qu'un investisseur étranger accepte de venir dans votre pays.
C'est énorme.
C'est colossal. Nous avons des spécialistes d'économie internationale qui ont travaillé sur les critères, il y en a 400 à peu près. Donc vous voyez que ce n'est pas demain la veille que les pays vont s'insérer à l'économie mondiale. Et si on regarde effectivement le sentiment, parce qu'il y a un matraquage médiatique, le sentiment populaire, c'est que la mondialisation, c'est pour tout le monde. C'est faux. La mondialisation concerne les pays qui se développent, qui innovent, qui ont des capacités industrielles, qui ont des capacités dans le domaine des services exportables, les logiciels informatiques, etc. Donc qui vont de l'avant, si je puis dire, avec une population formée, une population éduquée, avec des centres d'enseignement, des collèges d'ingénieurs, etc. Vous voyez ? Donc si vous voulez, on est bien loin du cliché qui est donné, aussi bien quand les politiques s'expriment dans les médias ou par les médias eux-mêmes, on est très loin du cliché qui est donné sur la mondialisation. Ça ne concerne que un petit groupe de pays en réalité. Bon, là, j'ai plus de 200 pays à l'ONU. Sur 200 pays à l'ONU, je ne sais pas s'il y en a vraiment, avec tous les critères, s'il y en a 60 vraiment intégrés, insérés au courant d'échanges internationaux en termes de biens, de services, de capitaux et de tourisme.
Un point qui semble aujourd'hui évident à l'occasion de cette crise, hein, du moins qui est mise en évidence, c'est la question de la spécialisation. On voit que les vaccins ne sont pas produits n'importe où dans le monde aujourd'hui, en Chine, en Inde en particulier, qui sont les gros producteurs de vaccins qui alimentent le monde. Donc là, on a un phénomène de spécialisation. On est aujourd'hui, quelque part, d'une certaine façon, un peu dépendant de ces pays-là en termes d'approvisionnement.
Alors, il y a la question de la supply chain, les chaînes d'approvisionnement que nous avons déjà abordées. Et je demande aux gens, aux personnes qui nous découvrent, d'aller sur les émissions précédentes. Effectivement, les grands théoriciens de l'économie ont vu très tôt, depuis il y a plus de deux siècles maintenant, que ce qui faisait la force d'un pays, c'était sa spécialisation économique. Industrielle, en termes de services, etc. Bon. Donc, la théorie de la spécialisation est au cœur, bien sûr, des problématiques théoriques abordées en économie que nous n'abordons pas, bien évidemment, ici. Mais pour revenir à la question de la mondialisation, j'ai oublié un critère. C'est aussi l'émergence de places financières. Regardez, il y a 40 ans, la Chine sortait du communisme, 76, hein, et aujourd'hui, la place de Shanghai est une des places financières les plus importantes du monde, par exemple. D'accord ? Donc, si vous voulez, la création de marchés financiers domestiques, nationaux, permet aux entrepreneurs locaux de lever des capitaux sur les marchés financiers. Donc, vous voyez que tous ces critères sont des critères fondamentaux. Je fais juste une petite remarque pédagogique. Pour ceux qui préparent des concours, parce qu'on est à l'Université numérique de La Réunion, que ce soit les personnes qui préparent des concours d'agrégation de sciences économiques et de gestion ou d'agrégation d'économie, de CAPES bien sûr, des personnes qui préparent des concours HEC, grandes écoles ou École nationale d'administration, le conseil que je leur donne, c'est que si vous avez ce sujet de la mondialisation, n'ayez pas peur. Parce que la science économique vous donne énormément de clés. Et un des documents importants, mis à part les théories, c'est bien sûr la balance des paiements. C'est par la balance des paiements qu'on peut avoir vraiment, savoir vraiment si un pays est inséré ou pas à l'économie internationale et à l'économie mondiale. D'accord. Évidemment, la spécialisation économique, pour revenir à votre question, c'est un thème clé, parce que les pays qui sont bien spécialisés, ce sont des pays qui sont forts. Quand nous commencions nos premières années de spécialisation, donc on avait déjà fini nos 4 années, puis après c'était des longues études en économie à l'époque, notre professeur d'économie nous disait, c'est simple, l'Allemagne par exemple a très bien compris, ou les pays anglo-saxons en général, ils ont très bien compris le principe de spécialisation économique. Nous avons gardé en France les chaussures, le textile, les biens manufacturés que font les pays à bas salaire, que commençaient à faire les pays à bas salaire. Eux, les pays d'Europe du Nord, les Allemands, les Américains, les Japonais, etc., ils se sont débarrassés de tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des machines-outils, des biens d'équipement, du matériel de transport, du matériel pour les infrastructures pour ces pays. Donc, ils se sont déspécialisés et ils se sont respécialisés. D'accord? Donc, juste une parenthèse pour dire que le thème de la spécialisation économique internationale est très important, notamment lorsque les personnes abordent ces problématiques, pas seulement à l'université, mais dans des concours.
Alors, Philippe Narasigan, c'est extrêmement important. Effectivement, cette question, je pense que dans le passé, si on s'intéresse à l'histoire économique, on le voit, il y a des philosophies différentes. Les pays ont adopté des approches différentes en termes de développement de leur économie et de la production de richesses. Ça a été très théorisé. Et notamment, par exemple, le fait de posséder de l'or à une époque était considéré comme le fait d'être riche. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Il ne suffit pas de posséder de l'or. Il faut des instruments de production, il faut être capable de produire, de se positionner et de s'insérer sur un marché mondialisé. Alors, Philippe Narasigan, taux d'ouverture des économies nationales, balance commerciale, montant des investissements directs étrangers, création de places financières. Est-ce qu'il existe pour vous un exemple, par exemple, de pays qui s'insèrent bien dans la mondialisation?
Alors, j'ai pris l'exemple d'un pays difficile, en quelque sorte. D'un pays qui n'était pas évident. Pourquoi? J'aurais pu parler de la Suisse, dont le taux d'industrialisation est extrêmement élevé. Parler de mondialisation, est-ce que les gens savent que la Suisse est un pays extrêmement industriel, totalement mondialisé? Et le salaire minimum en Suisse est de 4 500 € par mois. Ils ont tout robotisé, tout reconfiguré. Toutes les PME industrielles font de la recherche-développement. Donc, la Suisse exporte dans le monde entier avec, je ne sais pas, 8 millions d'habitants. Je ne connais pas le total.
La compétitivité, la modernisation, l'investissement, la recherche, la formation.
Ce qui nous est arrivé, je fais juste une parenthèse pour la France, c'est que la France, on s'est désindustrialisé parce que nos entreprises sont surtaxées par rapport aux entreprises européennes. Notre taux de marge est faible. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu les moyens de développement, de grandir en quelque sorte. Nos entreprises sont surendettées et sous-capitalisées. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de capitaux, ben vous êtes surendettés. Alors que les autres pays qui dégagent du cash, qui dégagent de la trésorerie, peuvent s'autofinancer. Donc vous voyez que le pays que je vais prendre, ce n'est pas un pays au départ qui était donné gagnant dans la mondialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de, en quelque sorte, rien n'est écrit au départ finalement. Je vais prendre un pays qui, justement, était peut-être gagné perdant. On va prendre l'exemple de la République tchèque. La République tchèque, aujourd'hui, en termes de niveau de vie, en 30 ans, dépasse, en termes de parité de pouvoir d'achat, donc PIB par habitant, en parité de pouvoir d'achat, dépasse maintenant l'Espagne et l'Italie. Niveau de vie élevé. J'ai écouté une interview en anglais qui est donnée le ministre, il y a quelques années déjà, le ministre des Finances tchèque, de l'économie et des finances, qui disait, mais finalement, aujourd'hui, on a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, on sera obligé d'importer de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, plein emploi. Rappelez-vous les caractéristiques de départ. Années 90, donc, 89, 90, chute du mur de Berlin. Tchécoslovaquie, pays à faible revenu. L'entreprise moderne n'existe pas. L'économie est largement fonctionnarisée, comme dans les pays de l'Est. Et, en plus, lorsque le mur de Berlin tombe, la République tchèque va se diviser en deux. D'un côté, la Slovaquie, parce que c'était la Tchécoslovaquie à l'époque, et puis de l'autre côté, la Tchéquie. Ça veut dire qu'ils ont perdu un pays entier. Les Tchèques ont perdu un autre pays qui était le leur, en fait.
Oui, c'était divisé en deux.
C'était divisé en deux. D'accord. Et donc, les Tchèques vont mettre en place une stratégie industrielle performante. Pourquoi ? Ils ont plusieurs points forts, notamment. C'est une main-d'œuvre éduquée. C'est un pays qui était très industriel avant que l'Allemagne nazie mette la main sur la Tchécoslovaquie. Main-d'œuvre éduquée. Et puis, ils vont faire une stratégie très intelligente, notamment par rapport à la Slovaquie. Ils vont garder leur monnaie, la couronne tchèque, et ils vont adopter un taux de change de 1 euro égale 25 couronnes tchèques. Donc, ils vont refuser de signer le traité de Maastricht. La dette publique de la République tchèque est très faible. La dette de l'État, hein, pardon. La dette de l'État, c'était 31% du PIB en 2019, donc avant la crise. Quand on parle de dette publique, on a fait l'émission la dernière fois là-dessus, sur les problèmes de dette, 80% de la dette publique, c'est la dette de l'État. Donc on peut dire que vraiment, un taux d'endettement de l'État très faible. Parce que la République tchèque exporte énormément, dégage des excédents commerciaux impressionnants, et donc se développe chaque année un peu plus.
Petite question.
Taux d'industrialisation, juste pour donner un chiffre à ceux qui nous écoutent, 37% du PIB. Je rappelle que le taux d'industrialisation, c'est le rapport entre la valeur industrielle, la valeur ajoutée pendant industrielle, sur le produit intérieur brut. Le total, hein, le montant total de la valeur ajoutée industrielle. C'est dire si la Tchéquie est un pays hautement industrialisé. Et donc, ils ont obtenu tous ces points forts en 30 ans. C'est un record.
C'est un record. Alors, 30 ans, c'est vrai que ça peut paraître long, mais pour un processus d'industrialisation, c'est un cycle minimum, je dirais.
C'est minimum.
Trois décennies pour pouvoir se réindustrialiser et être compétitif.
Et dépasser l'Espagne et l'Italie.
Dépasser l'Espagne et l'Italie. Petite question. Vous avez précisé que la Tchéquie a fait le choix de garder sa monnaie.
Oui.
Ça, je sais que c'est une grande spécialité, hein, la monnaie.
Ouais.
Mais
ouais.
À ce moment-là, les dirigeants de ce pays font ce choix-là parce que pour eux, le but, c'était de construire cette industrie. Qu'est-ce qui a pu être l'origine de cette
décision ?
Tout à fait.
Ils ont la compréhension de l'économie mondiale. Ils se disent que si on signe le traité de Maastricht, on va aller vers 1 euro tchèque égale 1 euro euro. Donc, on aura l'euro comme monnaie. En choisissant cette stratégie, donc une politique de change intelligente, ils vont, en quelque sorte, sous-évaluer leur monnaie. Donc, les investisseurs viendront chez eux, et non pas en Slovaquie ou ailleurs, les investisseurs étrangers, naturellement.
Bien sûr, ce dont on a parlé des critères. Hein,
les touristes auront intérêt à venir en Tchéquie à payer des hôtels 4 étoiles avec...
Donc la balance commerciale.
La balance commerciale, etc. Donc ils vont adopter une politique de change extrêmement intelligente et ils ne vont pas signer les accords de Maastricht, justement.
D'accord. Ce qui ne les empêche pas d'être dans l'Europe.
Ce qui ne les empêche pas d'être dans l'Europe et aujourd'hui d'être un des pays les plus performants de l'Europe en matière industrielle et dans d'autres domaines, bien sûr, en matière de services aussi.
Très bien. Alors, sur cette question du PIB, vous avez donc un taux d'industrialisation qui est plus élevé que celui de l'Allemagne. Comment est-ce qu'on peut passer, enfin je veux dire qu'une balance commerciale qui est largement excédentaire, comment est-ce que ce pays, aujourd'hui, si on devait prendre en exemple, pour nous par exemple, en France, qui ont des problématiques, qu'est-ce qu'il faudrait retenir, de quoi il faudrait s'inspirer pour pouvoir effectivement rentrer ou mieux s'insérer dans le jeu de la mondialisation.
Le problème de la réindustrialisation de la France, c'est un slogan, malheureusement. Comment passer du slogan qu'on voit dans les médias à la réalité? Un critère fondamental, avoir un taux de marge de 41-42%, comme l'ensemble des pays européens aujourd'hui. Nous avons un taux de marge de 26%. C'est-à-dire que nous n'avons pas de cash, nous n'avons pas de trésorerie, nous sommes sous-endettés. Nous perdons chaque année nos industries, nos entreprises de taille intermédiaire. Nous avons très peu d'entreprises de taille intermédiaire. Je rappelle que l'ETI, c'est 250 salariés à 4999 salariés. Donc, tout ça, il faut vraiment penser stratégie. Et donc, faire une réforme fiscale importante pour réindustrialiser la France. Deuxième point, aujourd'hui, les investissements directs étrangers qui viennent en France sont des investissements sous forme de fusion-acquisition, de rachat d'entreprises en réalité. Ce ne sont pas des investissements industriels qui viennent sur le territoire français. Donc, évidemment, deuxième point, rendre le territoire français de nouveau attractif. Donc, il n'y a pas de fatalité, comme la République tchèque le montre. Parce qu'eux sont partis de rien, en réalité.
Ils sont partis d'une situation même catastrophique.
Mais catastrophique. Donc, il n'y a pas de fatalité. En 30 ans, c'est, je dirais, ils sont devenus des très, très bons élèves de l'Europe. Et ils refusent même de rentrer dans la zone euro, en plus. Parce que sinon, il y aurait trop de contraintes... pour eux, notamment en matière de monnaie, parce qu'ils veulent absolument conserver le taux de change, comme les Suisses conservent la monnaie suisse, comme les Polonais conservent leur monnaie, etc. Donc la stratégie de change est une stratégie gagnante.
Est une stratégie gagnante. Alors l'investissement, le capital humain, donc la formation, la recherche et développement, tout ça sont des éléments effectivement qui peuvent contribuer à cette réussite. Alors cette crise sanitaire, Philippe Narasiguin, elle peut accélérer certains processus. Et vous avez parlé d'accélération, par exemple, du processus de démondialisation. Est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est observable? Est-ce que réellement, au niveau mondial, on observe des phénomènes dans certains pays ou des risques? Est-ce qu'il y a des risques de démondialisation ou de moins bonne insertion dans l'internationalisation et
Alors,
dans l'économie mondiale?
Quand on parle de la mondialisation sur les plateaux de télévision en France, on ne dit jamais que la branche la plus mondialisée du monde, c'est le tourisme. Même les pays les plus petits du monde ont une petite filière touristique. Et ce qu'on avait dit la dernière fois, dans, je ne sais plus dans quel webinaire, on avait vu ça, le choc de décroissance économique, je crois, ce webinaire qui s'appelle le choc de décroissance économique, on avait vu qu'en un an seulement, en fait moins d'un an, parce que le confinement a commencé au mois de mars 2020, d'accord. Nous avions perdu au niveau mondial, c'est pas seulement la France, au niveau mondial, 1 milliard de touristes. Donc déjà, là, vous avez des processus de démondialisation de la filière touristique qui peuvent se mettre en place pour certains pays. Pourquoi? Je vais vous prendre un exemple concret. À côté de chez nous, nous avons l'île Maurice. L'île Maurice a créé, en 40 ans, un tourisme de luxe, on va dire. Une filière touristique importante.
C'est un choix de spécialisation.
C'est un choix de spécialisation. Plus d'un million, 1,2 million de touristes qui viennent chaque année à l'île Maurice. Mais personne ne sait exactement, à partir de 2022-2023, s'ils pourront récupérer ces 1,2 million touristes. Quelle sera la nouvelle carte du tourisme mondial? Est-ce que dans certains pays, les processus de démondialisation de la filière touristique ne seront pas extrêmement brutaux? Alors, je m'excuse auprès d'amis mauriciens qui nous regardent aujourd'hui, c'est pas ce que je veux dire, c'est que simplement, c'est qu'on peut avoir ce type de scénario où entre-temps les gens découvrent de nouveaux pays, où entre-temps les gens se disent « Ah ben changeons un peu nos habitudes » et ne viennent plus dans les pays où ils allaient précédemment. Et donc, vous le disiez vous-même, la crise sanitaire, c'est une bombe à fragmentation. Mais ce qui est vrai pour le tourisme peut l'être aussi pour les secteurs industriels, pour les secteurs de services. Ça veut dire que si on n'a pas une résilience en termes de capacité de production industrielle, en termes de filières structurées, en termes de finances publiques saines, on peut se trouver dans des situations où la démondialisation amène à l'explosion du chômage dans certains pays, à des fermetures considérables d'entreprises. J'observe d'ailleurs que beaucoup de gens qui étaient pour la décroissance ou pour la démondialisation ne viennent plus à la télévision. Ils auraient pu dire « Génial, nous avons eu 1 milliard de touristes en moins, pollution en moins, les avions n'ont pas fonctionné, les énergies fossiles, le pétrole, tout ça, ça n'existe plus, enfin ça a été diminué par 6 ou 7, mais personne ne vient dire à la télévision « Ah ben c'est génial ».
Certaines personnes ont quand même dit, voilà, c'est un bel exemple ou au moins un test, effectivement, par rapport à la question de la crise climatique, par exemple.
Oui, c'est justement, je pensais à ça, justement, ben, par exemple, voilà. Les énergies fossiles, c'est pour ça que je vous parlais des énergies fossiles, parce que le tourisme, ben,
moins de circulation de voitures, moins d'émissions de gaz à effet de serre.
Non, il n'y a plus personne qui vient en disant, ben, cessons l'activité touristique parce que la crise du Covid, c'est génial. D'accord ? Plus personne.
Mais certains pays se sont complètement fermés, comme la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande.
Mais même l'île Maurice, ils ont adopté une stratégie Covid zéro. C'est pour ça que j'en parlais. Donc, si vous voulez, attention, lorsqu'on emploie des termes de mondialisation ou de démondialisation, il faut savoir de quoi on parle. Quand on emploie des termes de croissance ou de décroissance, là aussi, il faut savoir mettre du contenu dans tous ces termes.
D'où l'intérêt de notre émission pour redéfinir un certain nombre de termes, de concepts qui sont absolument essentiels à comprendre, pour bien comprendre quels sont les enjeux et les mécanismes en jeu.
Nous sommes là pour décoder, à travers un sujet d'actualité, les mécanismes économiques. Hein, nous prenons la science économique pour décoder donc l'actualité économique.
Alors, ce fameux tourisme, par exemple au niveau européen, on voit qu'aujourd'hui, certains pays vont peut-être faire le choix de dire, ben voilà, si vous voulez venir visiter notre pays, faites-vous vacciner et vous pourrez venir visiter le pays.
Ouais. Très, très clairement, l'Espagne, par exemple, dit ben non, ben les gens qui sont vaccinés viennent et puis les autres, voilà. Donc, il y aura une concurrence à l'intérieur même de l'Europe entre les pays d'Europe pour attirer des touristes, bien évidemment. Parce que là, dans cette crise, c'est évidemment le plus malin, les services de marketing de chaque pays qui diront, ben voilà, les avantages que j'offre. Et donc, c'est pour ça que je vous parle de redéfinition éventuelle de la carte du tourisme mondial. Quel sera pour nous, économistes, le critère objectif, finalement? Deux critères. Premier critère, en 2022, 2023, 2024, il faut prendre ça sur les 3 ans qui viennent, pour voir vraiment s'il y a eu un processus de démondialisation pour certains pays au profit de d'autres pays. Quels sont les critères? C'est le nombre d'arrivées. Quand je dis le nombre d'arrivées, ce n'est pas arriver à voir la Tour Eiffel à Paris, ce n'est pas ça. C'est le nombre de nuitées que nous, on utilise en économie. Passer effectivement dans une structure hôtelière, quel que soit le type de structure hôtelière. Maison d'hôte, et puis hôtel classique, 1 étoile, 2 étoiles, etc. Et deuxième critère objectif pour nous, c'est bien sûr la balance touristique. La balance touristique, c'est quoi? C'est tout simplement la différence entre les recettes, par exemple pour nous en France, les recettes que nous recevons de touristes étrangers, moins les dépenses des Français, des touristes français à l'étranger. Pour l'instant, nous avons une balance touristique excédentaire de 10 milliards d'euros. Je prends toujours les chiffres, bien sûr, de 2019. Je ne peux pas prendre les chiffres de 2020.
Crise, oui. Mais, oui.
Mais quel sera le niveau, les indicateurs concernant ces deux critères, nuitée, balance touristique? C'est là que nous, les économistes, on va vraiment voir si, dans, par exemple, le secteur touristique, il y a eu démondialisation dans certains pays, de la filière, et réallocation des touristes, redistribution au profit d'autres pays.
Alors, Philippe Narasiguin, on arrive au terme de cette émission. Comme à chaque fois, 30 minutes, c'est extrêmement rapide pour aborder un sujet aussi important, avec malgré tout des difficultés aussi techniques ou du moins scientifiques. Il faut comprendre les concepts. Donc, on a quand même balayé. Je pense que c'est intéressant. Je pense qu'on comprend mieux au terme de cette émission ce qu'est la mondialisation, les enjeux de l'internationalisation, du libre-échange. Alors, pour le tourisme, par exemple, on le voit, il va y avoir une course de vitesse. Les avantages compétitifs ou comparatifs, qu'est-ce qui va faire qu'on va aller plus dans tel pays ou dans tel pays, va dépendre de l'ingéniosité, de l'imagination.
La créativité.
Et donc, ça suppose d'avoir des pays qui soient capables d'être en résilience et de devenir encore plus créatifs qu'ils l'étaient par le passé.
Tous les pays, justement, sont sur le pied de guerre pour être encore plus dans la mondialisation, justement.
Alors, si on devait conclure cette émission, justement, Philippe Narasiguin, qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
Moi, je conclurai l'émission en plusieurs points. Premièrement, lorsqu'on aborde un sujet compliqué, comme les problématiques de mondialisation ou de démondialisation, recourir à la science économique, c'est très important, donner les indicateurs et analyser, bien sûr, à travers ces indicateurs, si les pays sont insérés ou pas à l'économie mondiale. Deuxième point, on l'a vu, la majorité des pays n'est pas insérée à l'économie mondiale. Et plus on est pauvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, moins on est inséré à l'économie mondiale. C'est comme ça. Il y a des pays qui ne sont absolument pas, même en termes touristiques d'ailleurs, insérés à l'économie internationale. Troisièmement, pour nous, évidemment, est-ce qu'on pourra, notre élite administrative et politique réfléchira différemment après la crise? Est-ce que des réformes pourront se faire, notamment en termes de capacité industrielle pour fortifier nos entreprises, donc de faire les réformes qui s'imposent, par exemple sur la fiscalité des entreprises? Donc voilà les trois conclusions que moi j'ai, et pourquoi j'ai pris l'exemple de la République tchèque, pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité finalement. On nous dit toujours, c'est la faute à la mondialisation, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à ceci. Mais les Européens ne disent pas la même chose. Eux, pour eux, ils ont conquis des parts de marché à l'étranger. Donc, à nous, en France, de nous regarder en face, de faire notre examen de conscience par rapport à, justement, ce déclassement que nous avons subi depuis une quarantaine d'années.
Merci Philippe Narasiguin pour cette conclusion. Rendez-vous très prochainement pour la 8e émission de cette série, Géopolitique du vaccin. Nous aborderons un autre sujet, donc rendez-vous aux personnes qui nous regardent très prochainement, dans 2 semaines, pour le 8e numéro de ces causeries de l'économie de l'Université numérique de La Réunion. À très bientôt. Au revoir Philippe.
Au revoir Christophe.